Donc Sandra, elle vient d'Annecy, elle est pasteur avec son mari à l'église du Gospel Center. Et attendez, elle a 6 garçons. Ah là, d'un seul coup, elle monte dans votre estime. Hein. 6 garçons. Et elle est toujours fraîche et pops. Tu sais, des fois, tu te dis, moi, j'en ai un. Tu sais, des fois, j'arrive à la maternelle en chaussons. Là, bonjour, je le dépose. Elle en a 6, tout va bien. Et elle est vraiment ointe. Elle est ordonnée principalement, en fait, prophète. Et c'est pour ça que je vais vous demander d'ouvrir vos cœurs. Parce que souvent, quand elle prêche, et je le dis à chaque fois, elle ne fait pas que de vous donner de l'information, elle vous donne des révélations. Elle donne des paroles très... qui font bim bam boum dans votre cœur. Amen. Donc voilà, Sandra, je pourrais parler de toi pendant des heures, mais vaut mieux que toi tu viennes. Hein? Voilà, sois bénie, Sandra.
Merci.
Tu peux faire comme à la maison.
Merci. Ben, ça, c'est beau de pouvoir faire comme à la maison. J'aime bien le concept d'avoir des églises partenaires. Hein, vous ne trouvez pas? Donc vous êtes tous les bienvenus à Annecy une fois pour nous visiter si vous êtes en vacances. Ce serait trop bien. En tout cas, il y a des gens qui se sont convertis ici et qui ont atterri dans notre église. Et on est trop contents. Et quand on vient faire des formations ici, il y a des gens de Annecy. Hein? C'est trop bien. Enfin, des Suisses. Hein? Les Suisses, ils vont à Annecy, à Belfort. Ils se déplacent. Donc je suis vraiment reconnaissante d'être ici parmi vous. Je suis dans la joie d'être dans une église qui est pleine de vie, pleine de feu. Quand il y a des délivrances pendant la louange, mais ça, je kiffe, comme dirait Joanne. C'est juste merveilleux. Pour moi, la délivrance, c'est vraiment, c'était la révélation dans ma vie. Je n'ai pas grandi dans une église où ils pratiquaient la délivrance. Et puis un jour, il y a c'était ma leader de jeunes, elle est venue vers moi, elle m'a dit, écoute, j'ai l'impression que Dieu me demande de te donner ce petit flyer. C'était un flyer de formation à délivrance avec Jean-Marc Bigler. Et puis j'étais, ah bon, ben, je prends, et puis j'y vais, je me dis, si Dieu il veut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et puis là, je découvre tout un monde, la délivrance, mais c'est fantastique, quelle bonne nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle. Donc... Bon, je suis très honorée de tout ce qu'on dit à mon sujet, mais toute la gloire revient à Jésus. Il m'a sorti des ténèbres, comme nous tous. Hein, quand je poursuivais, il m'a arraché au monde de la mode et des ténèbres, je précise. Maintenant, j'aime toujours la mode, vous avez remarqué. Mais il faut sortir des ténèbres, parce que c'est un monde qui doit être racheté. Hein. S'il y en a qui veulent, qui sont appelés à Paris pour confronter ce monde, assurez-vous d'être bien entouré et envoyé. Bon, en tout cas, moi j'aimerais redonner l'appareil à Johanna. Je l'ai rencontrée sur une émission de TBN France, et puis quand Florence, c'est qui organisait tout ça là, Elle m'a dit « Oui, j'ai fait venir à Annecy » parce que je lui proposais de pouvoir filmer à Annecy différents témoignages. Et puis elle m'a dit « J'ai fait venir à Annecy Johanna Exbraya, c'est une femme de réveil. » Moi, j'étais là « Waouh, il y a une femme de réveil en France !» Mais c'est énorme. Donc je me réjouissais de la rencontrer. Et je l'ai rencontrée avec ses pantalons argentés, là. Et ses intercesseuses personnelles. J'étais là « Mais what ?» C'était Nadia et Blandine. Et puis après, heureusement, on a eu l'occasion de pouvoir échanger. Et on s'est trouvé plein de points communs. Et ben, j'ai découvert aussi l'appel de sa maman, transmis sur sa sœur, qui est l'appel que Dieu m'a fait. Et puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont appelés sur ce genre de sujet. C'est très rare. Et quand je sens que c'est le cas, vous voyez, j'ai mis aujourd'hui les petits pieds, là. Vous savez ce que c'est, les petits pieds? J'ai rencontré... C'est les petits pieds des bébés à l'âge de 12 semaines. C'est-à-dire quand on décide de leur enlever la vie dans le ventre de leur mère. Donc, les gens qui portent ça, c'est des gens particuliers. Et j'ai rencontré un jeune homme qui me disait « Mais oui, moi, quand j'étais petit, j'en ai avalé un. » J'étais « Ah ouais !» Mais il a vécu. Donc, Johanna, vous avez de la chance, c'est une femme de réveil, puis vous l'avez comme pasteur. C'est pas merveilleux? Ou vous l'avez comme fille? C'est pas encore plus merveilleux. Ou comme femme. Hein? Ou comme amie. Enfin, je veux dire, c'est une grâce extraordinaire. Et je considère que Johanna, c'est une trompette de réveil. Pour la France, mais plus que la France, pour les nations. Et puis j'aime bien, c'est une trompette de réveil très originale, qui me fait penser à Jeanne d'Arc. Parce qu'elle sonne de la trompette pour rassembler les troupes, pour rassembler une armée, et puis pas qu'une armée de femmes, aussi des hommes. Note, Johanna. Et puis ce que je trouve beau, c'est qu'elle est plantée dans une famille, dans une église saine, et c'est pour ça qu'elle va prospérer. C'est parce qu'elle est sur le roc Jésus, mais elle est sur une plateforme de sécurité qui est l'église locale, avec des gens qui l'aiment, qui la respectent, mais qui savent aussi la reprendre, la conseiller, la réorienter. Et puis c'est cette plateforme qui est votre église, qui est la sécurité de Johanna. Parce que quand on est une femme de réveil ou un fer de lance, on est toujours la cible de l'ennemi. Donc si on n'a pas travaillé à notre sécurité, eh ben, on ne va pas durer sur le long terme. Donc moi je suis extrêmement réjouie de voir ça de mes yeux, ici en France. C'est merveilleux. Et quand j'entends que vous faites des cultes communs et que vous travaillez avec les autres églises de la région, alors là, pour moi, c'est des signes de réveil, mais clairs, nets. C'est des signes de faveur, de bénédiction de Dieu extraordinaire. Parce que Dieu envoie sa bénédiction et la vie sur l'unité. Hein? Mais l'unité, des fois, ça demande de mourir pour qu'elle soit possible. Et puis, comme la réconciliation, vous savez qu'il faut être deux pour être réconcilié. Même si une personne, elle va faire tous ses efforts pour le faire, parfois, c'est pas possible. Mais parfois, c'est pas possible pour un temps. Et puis après, un autre temps, c'est possible. Donc, on est tous des ministères de réconciliation. On sait que c'est ceux qui disaient « Moi, j'ai pas de ministère. » Bon, déjà, si t'es mère, t'as un ministère. Si t'es père, t'as un ministère. Mais quand t'es chrétien, t'as un ministère, celui de la réconciliation. D'accord ? C'est un beau ministère. Il faut prendre soin de son cœur. Donc moi, ce que j'ai à cœur, c'est l'Église. Une fois, Johanna m'a dit « Toi, Sandra, ton septième enfant, c'est l'Église. » J'étais là, what? Mais en même temps, c'est vrai. C'est parce que pour moi, l'Église, c'est tout un concept, c'est tout un sujet de tristesse, de soucis, de réflexion. Je me dis, l'Église a besoin d'une réforme profonde. Et comme vous êtes appelés à jeûner, à prier pour un réveil de l'amour, ben, ça tombe bien, parce que c'est de ça que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner des pistes pour rentrer dans ce réveil de l'amour, qui est un réveil des profondeurs, qui est un réveil déjà nous-mêmes. Hein, on dit le réveil, ça commence par moi. Toi, le réveil, ça commence par toi. Et un réveil, ça se prépare, ça se travaille, on met des choses en place. C'est comme l'amour. Tu sais, l'amour, c'est des actes. C'est pas un concept fumeux, comme le Saint-Esprit. C'est pas un concept fumeux, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et l'amour, eh ben, ça se traduit par des actes, et l'amour, ça se manifeste entre deux personnes. Tu vois, l'amour. Dieu, il a tant aimé le monde, déjà qu'il nous a créés. Vous savez qu'on a été créés pour que Dieu puisse exprimer son amour. Parce que pour que l'amour existe, il faut au moins être deux. Parce que l'amour, c'est entre deux. C'est pour ça que Jésus dit aussi, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est aussi pour ça que Dieu est trinitaire. Il s'exprime au milieu de nous. Et c'est pour ça qu'on peut parler, par exemple, d'onction corporative. Quand les enfants de Dieu se rassemblent, ça touche le cœur du Père. Parce que le Père, il veut avoir tous ses enfants autour de la table, comme moi. Je veux tous mes fils autour de la table. Quand il en manque un, ma satisfaction n'est pas pleine. Je veux tous les avoir autour de la table. Et puis ceux qui me plaignent, parce que j'ai que des garçons, sachez que les belles filles arrivent. Donc tu t'es jamais frustré dans la vie. C'est juste une question de temps. Parce que tes belles filles, tu vas les accueillir comme tes filles. Ça parle, ce que je dis, écoutez bien. Hein? C'est comme, adopte tes belles-filles, adopte tes beaux-fils, adopte ta belle-mère, adopte ton beau-père. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'adoption. Hein? Alors, gloire à Dieu. Dieu va faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il crée des fleuves dans le désert. Au milieu de la solitude, je vous lis le verset, c'est Ésaïe 43, 19, 21. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Donc, il va faire quelque chose de nouveau. Jésus, c'était une femme prophète qui était venue une fois en Suisse, et puis elle a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Elle a dit, Jésus garde le meilleur vin pour la fin. C'est son premier miracle. Hein. Ce sera son dernier aussi. Mais de manière corporative, Dieu y garde son meilleur vin, le vin nouveau pour la fin. La fin, nous sommes dans les temps de la fin, et Dieu il le garde pour l'Europe, ce vin. Il y a un mariage qui se prépare, il y a une épouse qui se prépare, c'est nous l'épouse les amis. On ne va pas chercher ailleurs, c'est nous l'épouse. Donc un mariage se prépare, des noces se préparent, l'épouse se prépare. Et puis, à mon sens, j'ai toujours dit ça, j'ai dit, le ministère de la délivrance fait partie des derniers temps parce qu'il faut beaucoup de délivrance pour enlever les rides et les taches. Beaucoup de délivrance, des vagues de délivrance. Et c'est pour ça que Johanna, prophétiquement, elle crée des formations à la délivrance, en ligne, où je prophétise que non seulement les gens ils seront équipés en ligne, mais ils seront délivrés, ils seront délivrés sur Zoom. Et ça, c'est Dieu il fait des miracles à travers Zoom, à travers le digital. C'est fantastique. Donc on se réjouit de voir tout un peuple transformé, guéri, délivré. Donc Dieu, il m'a arraché des griffes de la mode. Il m'a conduite dans des études universitaires en psychologie, et pas en théologie comme je souhaitais au départ. Il m'a donné plein de garçons avec son cœur, téléchargé pour la famille. Tu sais que j'avais jamais prévu d'avoir 6 garçons. Je voulais juste plus que 2. Parce que moi, j'étais 2 avec mon frère. Julien, il était 2 avec son frère. Puis je me disais, Julien, tu veux pas qu'on ait plus que 2? Je trouve 2, c'est... Moi, j'ai toujours voulu un petit frère. Je demandais à ma mère, un petit frère? Petit frère. Et puis une médecin qui lui avait dit, parce qu'elle a eu un cancer à un moment donné, non, il faut pas avoir plus de 2 enfants, ce sera dangereux pour vous. Mais qui te dit combien d'enfants tu dois avoir? Ça, c'est une grande question. Des fois, on soumet à Dieu, on soumet des domaines comme ça, mais qui lui soumet le nombre d'enfants qu'on va avoir? Ah non, ça, je garde pour moi. Ça, je garde précieusement. Là. Parce que le monde dit, tu dois avoir 2 enfants. D'abord un garçon, après une fille. Ça, c'est le choix du roi. Mais qui a dit ça? Ben moi, j'étais le choix du roi. Ben, moi, mon frère, il s'est exercé à l'escrime sur moi, dans le ventre, au judo sur moi, par terre. Bon, je ne sais pas si c'est le choix du roi. Mais je bénis mon frère. Je déclare que bientôt, il va donner sa vie à Jésus. Est-ce que je lui ai offert une Bible à Noël? Ça, c'est... Vous ne vous rendez pas compte. Hein. Mais c'est quelque chose. Donc, je continue un petit peu. Il nous a appelés avec Julien de manière surprenante comme pasteur. Alors qu'on n'avait pas du tout l'intention d'être pasteur, nous on voulait, on avait déjà un cœur pour l'église, on savait quel genre d'église il fallait pour le monde, on voulait le réveil, la réforme, on était là, on avait une vision pour l'église. Et Dieu il a vu ça. On était dans notre canapé après une grosse division, un clash intersidéral en Normandie. On est Suisse si jamais. Vous aimez les Suisses là? Je dis ça parce que vous êtes à la frontière, en général, c'est pas l'amour fou, hein. Bon. Ça va? Ah, les Alsaciens, vous... Non, mais moi, j'ai remarqué que j'ai fait un grand voyage à travers la Suisse pour venir jusqu'à vous, puis un tout petit voyage pour venir jusqu'à vous. Donc, vous êtes proche de la frontière. Bon, en tout cas, je bénis les Suisses, hein, parce qu'ils sont Suisses. Mais j'aime les Français. Ça fait plus de 20 ans que je suis missionnaire en France. Et j'aime les Français. J'aime leur passion, j'aime leur authenticité, j'aime leur... le vrai, tu sais. Ça, c'est quelque chose que porte la France. Mais il y a plein de choses que Dieu a données à la France et qui doivent être révélées pour les derniers temps. C'est fantastique. Hein. La France, elle a un rôle clé à jouer dans le plan que Dieu va déployer en 2026. Il y en a qui se réjouissent d'être en 2026 ? Moi, je vous dis, vous avez de quoi vous réjouir. Parce que 2026, c'est le psaume 126. Celui qui a semé dans les larmes récoltera dans la joie. Ah oui. Moi, je me réjouis en tout cas. Parce que j'en ai semé des larmes. Je peux vous dire. J'en ai semé des larmes. Et j'ai attendu. Et je suis restée à mon poste. Et j'ai prié. Et j'ai espéré. Mais j'attends le jour pour récolter dans la joie. J'attends ce jour. Et je sais qu'il vient. Et il vient en 2026. Dieu, il t'a passé au crible, il t'a testé sous tous les angles pour savoir si tu allais faire partie de cette armée des derniers temps qui va se tenir dans l'humilité, la fidélité, la loyauté, l'honneur pour faire exactement ce que Dieu va te demander de faire. Il y a une préparation, hein, tu sais, tu vas pas sur le champ de bataille sans préparation. Mon fils, il a fait l'armée là, en Suisse, comme... éclaireur, c'est ça, éclaireur, sniper, il était très bon. Il a dit, je tire à 300 mètres. Je dis, oui, c'est bien. Si tu tires pas sur les gens, c'est bien. Mais c'était tout un entraînement physique, et puis ensemble, en équipe, et puis il faut se camoufler, et puis il faut se mettre du vert sur le visage, plein de feuillage dessus pour pas être vu. Enfin bon, l'armée. Mais on est appelé à l'armée, hein, les amis. Donc, Dieu, il nous a vraiment mis à cœur cette passion pour le réveil, parce qu'on a goûté des prémices du réveil aux côtés de Freddy de Coster, qu'on a beaucoup servi en Normandie. On a fait des campagnes, des Pentecôtes, jusqu'à Paris, Bercy, où là, après, tout s'est écroulé. Et c'était très, très difficile, mais c'était une école pour nous. On a fait l'école biblique en Normandie, puis après, c'était une école biblique en direct live. Les tests de l'honneur. Test de la fidélité, test de la persévérance, test de garder ta langue, test de l'amour. Après, Dieu s'est dit, eux, ils ont pas mal réussi le test. Tiens, pasteur, clac. Pasteur, c'est pas facile, hein. Là, tu demanderas à Johanna si c'est facile d'être pasteur. C'est beau, c'est un privilège de servir Dieu. Mais c'est pas facile. Parce que comme Paul dit, tu portes le souci de toutes les églises. Tu te préoccupes de Christ qui doit être enfanté dans chacun d'entre vous. Tu vis les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est toi qui vis les douleurs. Hein, t'es là, tu dors pas la nuit. T'es là, j'espère qu'il va choisir Jésus. J'espère qu'il va retourner vers sa femme. J'espère qu'ils vont avoir un enfant. J'espère qu'ils vont avoir la foi et qu'ils vont pas entendre les diagnostics pourris qui sont sur leur enfant ou la médecine leur dit d'éliminer l'enfant. Tu sais, t'as plein de soucis, mais en même temps, Dieu il dit, donne-moi tous tes soucis, je m'en occupe. Donc ça, c'est un sujet qui m'a mis à cœur assez tôt. C'est tout le sujet des pertes de grossesse volontaires, notamment, que ceux qui étaient à éclosion il y a quelque temps l'ont entendu. Et puis, il m'a mis à cœur, donc il m'a fait goûter à la délivrance. J'ai dit, oh, mais c'est quoi ce fruit exquis? Puis après, à la guérison du cœur, parce qu'en fait, la délivrance, elle doit être connectée à un renouvellement de l'identité. Comme Jésus, Dieu l'a établi dans son identité juste après son baptême, et après, il l'a confronté à l'ennemi. Hein, comme Gédéon, il l'a d'abord établi dans son identité, vaillant héros, et ensuite, il lui a demandé de faire tomber les faux dieux qu'il y avait dans sa famille. Et là, tu te rappelles, Gédéon, il a dit, j'y vais la nuit quand même, que personne ne me voit. Et puis le lendemain, qui a fait tomber les poteaux, là? Et donc, c'est toute une aventure, mais il y a une ordonnance, guérison du cœur, délivrance. Et puis, ça, c'est le ministère Ésaïe 61 qui donne cette ordonnance. Je viens guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, sortir les prisonniers de prison. Puis chaque chose, dans son ordre, produit un effet extraordinaire. Et c'est ces thématiques, le pardon, la sexualité, la délivrance, que Dieu m'a demandé d'enseigner. Et puis, très vite, le ministère des entrailles. Et c'est ce que je considère aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas longtemps où j'ai réalisé que tout ce parcours que Dieu m'avait fait passer amenait à la guérison des entrailles. Les entrailles, tu sais, c'est là, les entrailles. Et il m'a montré que la guérison des entrailles, c'était une voie pour le réveil et la réforme. Parce que comme vous l'a déjà enseigné Johanna, le réveil ne suffit pas. Ou le réveil seul, c'est un feu de paille. Mais le réveil, c'est l'enclenchement de quelque chose. Donc ce qui doit suivre le réveil, c'est la réforme. Et la réforme, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de perspective. Et c'est comme si on doit revenir. C'est pas comme si il y a le nouveau de Dieu, c'est ce qu'il a créé depuis le départ qu'on a perdu sur le chemin. Donc c'est pas si nouveau que ça en fait. Le nouveau de Dieu, ça veut dire cette année revenir à l'essentiel, revenir à l'église primitive, revenir à ce que Dieu avait voulu, désiré et pour lequel il avait payé un grand prix pour que ça se passe. C'est son Église, comment lui l'a conçue, comment il l'a voulu, comment il l'a rêvé. On doit revenir à ça. Donc c'est nouveau parce qu'on ne l'a pas vraiment connu, mais en même temps c'est ce que Dieu avait prévu depuis le début. C'est là où Dieu va nous ramener, et puis il va le faire à travers cette question des entrailles, parce que les entrailles c'est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit dans mon être. Et c'est là où Dieu doit placer son feu. Tu sais, la petite cheminée là, elle est là. Ta cheminée, elle est là. Donc c'est un endroit de contestation, c'est un endroit d'enjeu, c'est l'endroit ultime de notre être. Et on est, je vous rappelle, on est esprit, on a été créé esprit, on a une âme, la décision, les émotions, tout ça, et on vit dans un corps. Mais sans ton corps, c'est pas un accessoire le corps. Sans ton corps, tu peux rien faire. Tu peux pas aimer, tu peux pas bénir, tu peux rien faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les esprits mauvais, ils cherchent un corps dans lequel habiter pour maudire, pour tuer, pour détruire. Donc le corps, c'est hyper important parce que c'est le moyen par lequel tu peux impacter la terre. Et c'est pour ça que nous sommes le corps de Christ. D'accord ? Donc les entrailles, je te fais une petite définition. Le français, il emprunte un mot grec pour désigner le fait de se rendre sensible aux souffrances de quelqu'un d'autre, c'est l'empathie. Ça, c'est un fameux psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers, qui a parlé de l'empathie, et puis il a expliqué, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, sans vraiment être totalement à la place de l'autre, parce que sinon tu plonges avec lui. Donc en tant que psychologue, tu dois te mettre à la place de l'autre, tout en gardant tes distances pour pouvoir l'en sortir. Tu vois ? Donc tu t'identifies à l'autre, mais pas complètement, sinon tu ne peux pas le sortir de là. Sinon vous êtes les deux en train de vous noyer. Donc l'empathie, c'est comme si je lance une bouée de sauvetage avec une corde pour l'en sortir. D'accord ? Si tu vas vers quelqu'un qui se noie, tu es au courant que tu vas te noyer avec lui ? Si jamais. Au cas où tu te retrouverais dans cette situation. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui se noie parce qu'il s'accroche à toi et puis t'amène en bas, là, sous l'eau. Donc, développer son empathie, c'est tenter de comprendre les sentiments et les émotions d'un autre individu. C'est se mettre à la place de l'autre. Et pour ce concept abstrait, l'hébreu biblique va prendre le mot « rahamim » qui veut dire littéralement « le sein maternel, l'utérus ou les entrailles ». On en comprend que l'empathie dans la Bible, c'est comme le lien viscéral entre une mère et son enfant. Cette image de l'amour plein de tendresse d'une mère pour son enfant est utilisée à plusieurs endroits dans la Bible pour décrire le regard de Dieu sur son peuple. Par exemple, il y a un passage dans la Bible, c'est dans Jérémie 31:20, où Dieu dit « Éphraïm, est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, pour qu'après chacune de mes menaces, je doive toujours penser à lui et que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse ?» Malheureusement, la traduction de cette image par les mots « pitié, compassion et miséricorde » décrivent pas tout à fait bien l'émotion et l'intimité du mot « ra'amim ». Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot « splanchna » qui évoque cette même image, et littéralement, ça veut dire « entrailles ». En grec, on dit qu'on a des entrailles pour quelqu'un, pour exprimer l'idée d'être ému et d'éprouver un sentiment intense de compassion. À plusieurs reprises, c'est de la façon dont on écrit, dont on décrit le regard de Jésus pour une personne malade ou une foule. Vous vous rappelez quand Jésus il est sur la barque et qu'il voit la foule sur la rive et qu'il est touché de compassion, ému de compassion, et on voit en fait que ça libère le miracle. Parce qu'après, il y a plein de miracles qui se passent, après cette compassion. Donc je vous cite, c'est dans Matthieu 14:14, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion, pris de pitié ou ému aux entrailles pour elle, et il guérit les malades. » Donc les chrétiens sont appelés à faire de même. Ça c'est dans Paul. Paul qui le dit aux Colossiens, Colossiens 3:12, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Donc, pris au pied de la lettre, ce verset semble complètement dégoûtant parce que entrailles, c'est aussi viscères, c'est aussi tout le système digestif. Hein. Mais c'est le système reproducteur et système digestif. Pourtant, lorsqu'on connaît le symbole des entrailles, on voit comment il évoque les sentiments les plus profonds et intimes. On a besoin d'entrailles de miséricorde dans nos familles, entre conjoints, entre collègues de travail et même entre membres d'une communauté chrétienne. Et le symbole des entrailles nous permet de surmonter les conflits et de voir l'autre avec tout l'amour des yeux d'une mère pour son enfant. T'as remarqué qu'une mère, vis-à-vis de son enfant, elle ne verra jamais le problème. Il a beau être voyou, drogué, menteur, voleur. Aux yeux d'une mère, c'est son petit chéri. Innocent. Vous avez remarqué? Donc, je vous donne encore une autre définition. C'est comme splanchna, c'est un petit peu différent, c'est splanchknon. Et ça veut dire entrailles, intestin. C'est le cœur, les poumons, le foie. Les entrailles, elles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles la colère et l'amour. Mais par les Hébreux, le siège des plus tendres affections, en particulier la bonté, la bienveillance, la compassion, c'est là, dans notre cœur, dans nos entrailles. Et c'est dans le cœur que réside la miséricorde, dans les entrailles. C'est le siège de l'amour, les entrailles. Et on peut voir par exemple Joseph, il est touché dans ses entrailles quand il voit son frère Benjamin. C'est quand ils reviennent là. Et il voit Benjamin, c'était son petit frère. Et bien il est touché dans ses entrailles. Genèse 43:30. La vraie mère de l'enfant que Salomon. Tu te rappelles quand Salomon il a ses deux mères qui disent non, ça c'est mon fils. Les deux elles disent c'est mon fils. Il dit « Ok, très bien, on va couper l'enfant en deux, regardez-moi. » Et puis c'est laquelle mère qui réagit en disant « Non, 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 touchez-le pas. » Ben Salomon, il sait que c'est la vraie mère, parce que la vraie mère, elle a des entrailles de compassion. Elle préfère laisser la vie à son enfant et le perdre. Grande sagesse de Salomon. Le Seigneur nous a visités par les entrailles de sa miséricorde dans Luc 1, verset 76, en nous envoyant le Messie. Et Paul, comme je l'ai dit juste avant, dans Colossiens 3:12, il nous encourage à avoir des entrailles de miséricorde. Donc, comme je l'ai dit hier, la sexualité, c'est une adoration. Et je dirais même, comme on a vécu ce petit temps de délivrance-là, sur l'impureté sexuelle, ben, je trouve que c'est très intéressant et prophétique en même temps. Parce que la sexualité, c'est vraiment le cœur du cœur de l'intimité. Et c'est le cœur du cœur de Dieu. Et c'est le lieu très saint. C'est quelque chose de tellement saint, tellement profond, que déjà la sexualité, on devrait en parler dans l'Église pour nous rappeler à tous que c'est saint. Parce que l'ennemi a travaillé et s'est acharné à nous faire croire que c'était dégoûtant. L'ennemi s'est débrouillé pour que ta première expérience sexuelle soit dégoûtante. Agression. Exposition à la pornographie. Toutes ces choses-là. Il s'est débrouillé pour que ça se passe. Et je vous assure, si je devais trouver une personne qui me dise « Moi, mon introduction à la sexualité était pure et sainte », venez vers moi, s'il vous plaît. Voilà. Oui, ta sœur aussi, elle m'a dit la même chose. Moi, je pense. Mais juste pour vous dire que c'est extrêmement rare. Moi, j'en ai rencontré deux dans ma vie. C'est Jekolia et Johanna. C'est une grâce extraordinaire. C'est l'éducation et certainement l'héritage. Parce que des fois, on a beau éduquer, l'ennemi sait les droits qu'il a de génération en génération. Mais la sexualité, c'est toute une affaire et c'est un territoire qu'on doit absolument racheter parce que c'est le moyen que l'ennemi a trouvé pour tous nous asservir. Tu sais qu'il y a la pornographie, par exemple, c'est le moyen d'asservissement le plus fatal pour contrôler une société. Parce que je t'explique pourquoi j'ai fait psychologie. Moi, ce n'était pas mon plan. Hein. Mais c'est pour que je puisse vous dire aujourd'hui que quand tu es agressé sexuellement, tu seras dissocié psychologiquement. Et une personne dissociée, elle est facilement contrôlable. Tu vois ? C'est une équation mathématique. Moi, j'ai fait un bac scientifique. J'aime les maths. Mais pour dire, j'aime pas les maths, j'aime la logique. A plus B égale C. Genre, l'ennemi, il va chercher par tous les moyens, et aujourd'hui, il en a des moyens, mais alors, majeurs. Et puis, en plus, avec les manuels Evars qui sont dans toutes nos écoles, t'as entendu parler des manuels Evars ? Où on enseigne la masturbation à l'âge de la maternelle, puis après, on montre les pires horreurs. C'est comme des livres de pornographie, mais genre, pour les enfants, donnés par l'Éducation nationale. Mais parce qu'il y a une intention derrière, c'est que pour contrôler une population, eh ben on va utiliser la sexualité pervertie pour le faire. Parce que c'est tellement sain, tellement important, tellement impactant la sexualité, que ça a le pouvoir, si elle est mal utilisée, c'est comme la bombe atomique. C'est très puissant, mais ça peut détruire toute une ville, toute une région. Donc, ce qui est puissant va être contesté. Toute forme de puissance, le couple, l'alliance. Tu vois comment l'alliance est contestée ? Le mariage, tu vois comment c'est contesté ? Ou aujourd'hui, tu vois même des grands ministères reconnus qui prêchaient la famille, divorce. Mais quelle catastrophe ! Moi, j'ai vécu ça. Les personnes dans le ministère qui nous ont le plus impactés et qui disaient, chaque semaine, tu dois prendre soin de ton couple, tu dois réserver un soir de la semaine pour que ton mari, hein, Pierre, que tu envoies, que tu invites ta femme en date. C'est pas parce que t'es marié que tu fais plus de date. Tu l'emmènes faire du shopping, tu l'emmènes au restaurant, tu l'emmènes faire des week-ends surprises. Les hommes, vous êtes avec moi ? Hein ? J'espère que vous direz ça, là, à votre... Session homme. Il faut continuer la romance. Tu sais, un couple, ça se travaille. Un feu, ça s'entretient. Moi, je sais, il faut toujours mettre des bûches. Là. Des bûches mouillées, en plus, qui ne veulent pas brûler. Julien Duby, il n'y a plus... C'est mon mari. Il n'y a plus de bois, et puis il fait froid, et puis on doit mettre des bûches. J'ai dit, Julien, il n'y a plus de bûches, là. Il faut qu'on commande des... Il dit, je crois que je vais aller scier du bois. Là, j'ai vu là-bas, ils ne s'occupent pas du bois mort. Je vais aller scier. Je dis, mais c'est un territoire public, ils vont t'arrêter. Il dit, ben non, je suis en train de les aider. J'enlève le bois mort. Hein, si jamais. Donc, bon. La sexualité, les amis. Notre corps. Vous rappelez que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, le prix de la croix, du sang de Jésus, c'est un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Et ça, dans quel contexte est-ce que Paul parle aux Corinthiens ? Il leur parle précisément de l'impureté sexuelle. Et il leur dira aussi, si tu te lies à une prostituée dans une relation sexuelle, tu vas ne faire plus qu'une seule chair avec elle. Qui fait ça ? Qui utilise les membres de Christ pour la prostitution ? Ça, tu ne peux pas faire ça. C'est Paul qui dit, hein. C'est pas Sandra Duby. Moi, je le répète, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Tu ne peux pas être dans la louange et consommer de la pornographie. Tu ne peux pas être dans le ministère et consommer de la pornographie. Tu ne peux pas être pasteur, leader, responsable et consommer de la pornographie. Tu ne peux pas être chrétien lambda si tu veux impacter ton monde, et c'est ça ton objectif, parce que tu es le sel de la terre, la lumière du monde, si tu es captif là-dedans. Parce que c'est pas genre... C'est comme boire un petit verre de whisky. Ça, on pourrait parler de l'alcool aussi, mais... Mais là, on va se concentrer sur tout ce qui concerne les entrailles. Tu comprends que c'est lié ? Tu veux rentrer dans un réveil d'amour, tu dois accueillir la pureté dans ta vie. Donc, notre corps, c'est un temple. On est d'accord ? On l'a lu dans la parole de Dieu. Et puis, le temple, à l'époque, au tout début, là, quand Dieu il a dit « Je veux vivre au milieu de mon peuple », il a dit à Moïse « Tu vas construire un tabernacle ». Et je vais te donner toutes les dimensions, tous les détails du tabernacle. Et tout ça, c'est décrit dans Exode 25. Et moi, j'ai lu un livre qui m'a profondément marqué. C'était le but. Jésus, il a accompli son but. C'est un livre de Derek Prince qui, et le titre, c'est « Le chemin dans le lieu saint des saints ». Tu l'as lu ? Et il explique la profondeur, la signification de ces trois parties du tabernacle. Donc le tabernacle, c'est là où Dieu a choisi de résider. Tu te rappelles cette fumée du jour et la colonne de feu la nuit ? Elle arrivait exactement dans le lieu très saint du tabernacle. On est d'accord ? Et donc le tabernacle, il est entouré d'une muraille de tissu, on va dire. Et tout est précis, tous les dessins sont précis, le matériel utilisé, tout est dans le détail. Dieu, c'est un Dieu de détail, tout a une signification, enfin c'est juste magnifique. Le tabernacle. On se dit, oh, c'est dans l'Ancien Testament, cette tente-là. Non, non, non. C'est le lieu que Dieu a choisi pour... faire résider sa présence. Et vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc le tabernacle nous parle de notre corps. Et ça parle aussi de Christ. Parce qu'il y a trois parties dans le tabernacle. Tu vois, tu rentres, tu reliras hein, Exode 25. Tu rentres, puis c'est le parvis. Et dans le parvis, il y a l'autel des sacrifices, où on sacrifiait les animaux. Et puis il y a la cuve d'airain, où les sacrificateurs se lavaient les mains. Et ça signifie... Et puis il y avait une porte, tu vois, Jésus c'est la porte. Donc tu dois rentrer dans la présence de Dieu par la porte, Jésus. Et puis après, tu dois donner ta vie à Jésus sur l'autel des sacrifices. Et après, tu dois passer par les eaux du baptême dans la cuve d'airain. Et après, tu rentres dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y a les pains de proposition, parce que Jésus c'est le pain du ciel. Et tu as la menorah, là, l'huile... parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Et puis, tu as l'autel des parfums. Ça, c'est Jésus, le grand intercesseur, qui intercède pour nous auprès du Père. Puis après, tu as un voile très épais, celui qui s'est déchiré quand Christ est mort sur la croix. Il s'est déchiré de manière souveraine. Personne ne l'a déchiré. Dieu lui-même l'a déchiré. Parce que Jésus, à la croix, il a ouvert la voie vers le Père. C'est beau. Le voile s'est déchiré, comme la femme qui donne son corps à son mari il y a un voile déchiré, c'est l'hymen. Pour arriver au lieu très saint, qui sont les entrailles de notre corps, le voile, l'hymen, doit être déchiré et du sang coule, parce que c'est le signe de l'alliance. Comme Jésus l'a fait couler son sang sur la croix, et au même moment, le voile épais s'est déchiré. Et pour rentrer dans le lieu très saint, où il y a l'arche de l'alliance, avec le souvenir des tables de la loi, du bâton fleuri de Aaron, où c'est Dieu qui désigne qui il place en autorité. Et puis il y avait la manne, c'est ce pain quotidien. C'est la manne, Jésus, c'est la manne, c'est le pain frais qui t'est donné chaque jour, chaque matin. Et dans ce coffre de l'Alliance, il y a la gloire, il y a les chérubins en or dessus, et c'est un lieu de gloire, c'est un lieu de vie, c'est le lieu très saint, c'est nos entrailles. Ça, c'est toute une révélation, je t'appelle. Jésus, mais quelle révélation! Et puis dans ce livre, il explique Jésus. Jésus, il a trois choses qui le définissent, qui correspondent aux trois parties du tabernacle. Jésus, c'est le chemin. Tu vois, il y a un chemin pour aller dans la présence de Dieu. Donne ta vie à Jésus, tu passes par les eaux du baptême, tu passes à travers la porte. Jésus, c'est le chemin, tu dois suivre son chemin. Et puis après, le lieu saint, c'est le lieu de la vérité, de la lumière. Tu es sondé, tu dois devenir toi-même si tu veux aller plus loin. Parce que Dieu, il attend. Il a misé sur toi, c'est lui qui t'a créé, tu dois être toi-même, en vérité. La vérité, c'est beau. Et puis après, tu passes dans ce lieu de gloire où il y a la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Où est-ce que Dieu dépose sa vie? Les entrailles, c'est le portail entre le ciel et la terre. C'est à travers les entrailles d'une mère que Dieu a décidé d'envoyer ses enfants bien-aimés, ses trésors du ciel sur la terre. C'est la piste d'atterrissage du Père. C'est les entrailles. Les entrailles, c'est la piste d'atterrissage de l'amour, c'est la piste d'atterrissage des promesses, c'est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit. C'est tes entrailles, et c'est pour cette raison qu'elles sont contestées à travers la sexualité perverse, les agressions sexuelles et les pertes de grossesse volontaires ou non. Parce que l'ennemi, il va se battre pour obtenir tes entrailles, parce que c'est un lieu d'adoration. Et on est dans une guerre d'adoration depuis le début. Élie, il a fait quoi, Élie? Élie, le grand prophète, il a massacré les prophètes de Baal. Et il leur a prouvé qui était le vrai Dieu sur l'autel. Pendant qu'il y en a qui essayaient de se couper et tout ça, de dire « Non, c'est Baal, le vrai Dieu !» Et Élie, il a dit « Mettez-moi de l'eau, là, sur le bois. » Et que le vrai Dieu se manifeste maintenant. Sur l'autel, le feu descend. Dieu veut envoyer son feu dans tes entrailles, qui est un autel d'adoration. Donc le nouveau de Dieu, c'est récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Donc l'Église, je le crois profondément, c'est pour ça que je suis venue jusqu'ici pour vous le dire, je crois profondément que la réforme de l'Église passe par la guérison des entrailles. Parce que tout revient à la question de l'intimité. Une femme qui a vécu des agressions sexuelles, elle va avoir de la peine à vivre une sexualité saine, épanouie avec son mari. Ça, ça ne va pas, parce que c'est la destruction du couple, c'est la destruction de la famille, c'est des catastrophes. Donc, ce n'est pas le monde qui répond à ses besoins profonds, tu vois ? Je te parle de choses profondes. Le réveil qui vient, c'est un réveil des profondeurs. Dieu veut avoir accès à tes secrets les plus douloureux parce que c'est là qu'il peut te ressusciter. Donc tu dois avoir le courage de lui ouvrir tes tiroirs secrets pour qu'il puisse investir et venir tout restaurer, guérir. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas la psychologie qui sauve. La psychologie nous permet de comprendre certaines choses, mais celui qui vient radicalement ramener la vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui est capable de te faire revivre. Et le lieu de tous les enjeux, c'est tes entrailles. Donc je sais que je bassine les gens avec ça. Mais c'est un message très prophétique. Moi, je ne suis pas... Quand on me présente comme prophète, tous les gens sont là. Oh, on va me donner une parole prophétique. Oui, j'aimerais que Dieu confirme que je vais bien me marier avec lui, que j'aimerais avec. Mais je ne suis pas un prophète normal. Anormal. Je prophétise à tout le monde en même temps. Je prophétise à l'Église, pas à des individus. Je vous annonce ce qui va arriver. Les vagues que Dieu va déverser. Ça va nous surprendre, mais ce sera quelque chose de très profond et de corporatif. Tu vois ? Parce que Dieu, il rassemble son corps. Il a besoin d'un corps, pas de membres disséminés comme dans la vallée d'Ézéchiel 37. Là, il est en train de dire... Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Rassemble les eaux éparses. Rassemble ton corps. Rassemble tes enfants autour de la table. Parce qu'il y a une table qui se prépare, qui est dressée. Rassemble tes enfants des quatre vents. Rassemble ton corps. Mets des jointures, des moelles. Libère la gloire. Tu sais pourquoi on a besoin de la gloire ? C'est pour rassembler le corps. C'est pour qu'on soit un avec le Père et donc un ensemble pour que le monde sache, Jean 17, que Dieu existe et que c'est bien un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour et de justice. Pas jamais oublier la justice. Jésus. Le réveil, c'est traiter nos entrailles pour accueillir la flamme de l'amour véritable. Donc on peut je vais juste vous dire encore un truc, parce que ça faut le savoir. Le mot connaître, parce que je sais que quand je vous dis que la sexualité est une adoration, vous dites est-ce bien biblique tout ça? Ben si on prend le mot connaître, quand Dieu dit que Adam connut Ève, c'est le même mot qui est utilisé pour dire connaître Dieu. C'est un mot saint, c'est un mot d'intimité, c'est un mot de connexion de cœur, tu vois. C'est pas le même mot qui est utilisé quand David commet adultère avec Bathsheba. Donc on peut pas le résumer à la relation sexuelle, parce que la relation sexuelle, selon Dieu, c'est connaître. Mais la relation sexuelle pervertie, elle a perdu toute sa puissance. Tu vois, et elle sert l'ennemi. C'est pas juste qu'elle sert rien ou qu'elle vaut rien. C'est quand tu exerces ta sexualité pour Dieu, tu alimentes l'autel de l'Éternel, parce que c'est une adoration. Et quand tu utilises la sexualité de manière perverse, même dans ton mariage avec ton mari chrétien, mais que tu n'es pas en train d'exercer la sexualité selon Dieu dans sa forme, tu alimentes l'autel de l'ennemi. Tu vois ? Et donc, ce verbe connaître, tu sais que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. C'est toute une question de relation. Quand on dit Jésus, tu sais, quand on prêche l'évangile, on dit, c'est pas une religion, c'est une relation. Amen. Oui, mais de quel type de relation on parle ? C'est une relation intime, une relation sainte, c'est une relation profonde. Tu vois ? Il faut quand même décrire le type de relation. Et puis, il y a deux versets, moi, qui m'interpellent en particulier dans cette saison. C'est Matthieu 25, versets 11 à 13, qui dit, ça parle des 10 vierges. Les 10 vierges, c'est toutes des chrétiennes. T'en as 5 qui ont de l'huile, t'en as 5 qui n'ont pas d'huile dans leur lampe. Et les 5 qui n'ont pas d'huile... Elles se réveillent, Elles disent, ouf là. Et elles sont arrêtées devant la porte. Et Jésus va leur dire, donc plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répond, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je ne vous connais pas. Donc, la vie éternelle, c'est de le connaître, mais surtout d'être connu de lui. Tu dis, je connais Jésus, j'aime Jésus, mais est-ce que lui te connaît? Tu dois retrouver ton intimité et la pureté de tes entrailles pour que tu puisses nourrir cette relation où tu connais Jésus, il te connaît de cœur à cœur. Tu vois, tu dois récupérer ton intimité parce que la vie éternelle, elle est là. Et l'autre passage, Matthieu 7, versets 19 à 23, que vous connaissez tous, « Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Imagine, miracle, prophétie, signe. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, les amis, qui c'est qui veut être connu de Jésus? Alors, levez-vous tous. Levez-vous tous. Et j'espère que cette semence de vie qui est déposée dans vos cœurs aujourd'hui, je déclare qu'elle porte du fruit. Qu'il y a un feu qui s'allume à l'intérieur de vous. Que vous poursuivez cet amour, cette intimité. Et surtout que vous ayez le courage d'aller chercher votre guérison et votre délivrance. Que si vous êtes dit jusqu'à présent, mais à quoi bon, de toute façon j'ai déjà essayé, ça n'a jamais fonctionné, je déclare que tout est nouveau et que maintenant vous vous dites, ça va marcher cette année, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle opportunité, ça va fonctionner cette année, je reçois ma percée. Tout est nouveau dans ce sens-là. Vous avez essayé pendant des années, essayez différents chemins. Cette année, vous allez trouver le bon chemin. C'est Jésus. Et ce que je sentais, c'était que Jésus aimerait vous proposer de recevoir des bébés, si vous ne pouvez pas en avoir, avec Darlène. Venez vers Darlène si vous n'arrivez pas à avoir des bébés que vous en attendez, ou si vous connaissez des personnes, genre votre fille ou votre amie, vous pouvez recevoir pour elle, et après vous lui imposerez les mains. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et puis j'aimerais juste vous dire, dans notre église, il y a une personne qui a attendu 9 ans d'être enceinte, elle est tombée enceinte. Il y en a une autre, elle a attendu aussi 5-6 ans d'être enceinte, elle est tombée enceinte. Donc quand on s'occupe des trésors du ciel du Père, il y a une onction qui vient avec, la vie. Donc ça, je sentais qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes de thyroïde et ça affectait tout leur système immunitaire et tout ça. Et Jésus veut guérir les thyroïdes aujourd'hui. Et puis, il y a un autre appel avec Adèle, ce que je chantais avec bien sûr tous vos équipières de prière. Adèle, si tu peux te placer là. Et je sentais que c'était tous ceux qui avaient un secret douloureux lié aux agressions sexuelles. Ça ne sera pas compliqué, mais juste vous dire, quand vous vous approchez d'Adèle et qu'elle va juste vous imposer les mains rapidement, parce qu'on ne pourra pas prier pour tout le monde comme ça, mais juste un attouchement d'Adèle, ce sera le Saint-Esprit qui va venir, qui va vous réunifier, qui va vous consoler et qui va vous redonner une espérance et réactiver une sainte intimité, notamment avec Dieu. Parce que Darlène, elle a perdu un fils à 14 mois. Elle a vécu la douleur de perdre un enfant. Donc si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, ou même si vous avez perdu un enfant, quelle que soit la circonstance, venir recevoir l'amour et la consolation chez Darlene parce qu'elle apporte cette onction extraordinaire. Et Adèle, elle a confronté toutes les problématiques liées aux agressions sexuelles. En tant que mère, pour ses filles, vis-à-vis du mari, elle s'est battue et en Jésus, il est venu tout restaurer. Il y a beaucoup d'espérance en Jésus. Mais vous savez qu'il y a plein de maladies qui viennent de dérèglements émotionnels. Et puis ça, on aimerait que vous puissiez être guéri aujourd'hui. Guéri d'endométriose, guéri de dysfonctionnement de la thyroïde, guéri du cancer. Là, vous pouvez venir ici, ceux qui ont besoin de guérison physique. Et on va prier pour vous. Saint-Esprit, merci pour les profondeurs que tu amènes dans cette église ici, qui est aussi la piste d'atterrissage. Tu veux déverser des grandes choses ici, dans cette région, dans cette église, qui prépare déjà le réveil parce qu'elle prépare l'unité entre les églises sur ce territoire, ce qui est merveilleux. Et nous, on a besoin de ça. On veut recevoir cette onction pour Annecy. On veut recevoir cette onction. Parce que vous savez que quand le réveil arrive dans une ville ou dans une église, vos pires opposants seront les autres églises de la ville. Et potentiellement, ça va éteindre le réveil. Donc on veut chercher l'unité parce que Dieu, il se déverse sur un corps. Alléluia.